français.
Le maréchal Pétain, pendant la période de l'occupation.
Quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipiteriez la patrie dans les pires malheurs.
Charles, mais quand vous dites militant où ça ? À la CGT ? À la LICA ?
Et évidemment, quand l'occupation vient, je participerai presque spontanément à la rédaction de tracts qu'on glisse sous les paillassons. Puis, les choses s'aggravant, on cherchera des planques pour ceux qui en ont besoin. Et aussi, on cherchera à ramasser des sous pour envoyer des colis à ceux qui sont déjà en prison ou dans des camps. Je me rappelle qu'alors que, évidemment, le syndicat était interdit, que tout ça était devenu de plus en plus dangereux, nous étions quelques camarades à collecter les cotisations syndicales qui donnaient lieu à la remise de timbres en blanc sans rien imprimer dessus. Je me souviens de nos démarches, qui parfois étaient couronnées de succès, auprès de certains patrons quand on a arrêté les premiers juifs de Paris, en mai 41. Nous avons exigé que leur salaire continue d'être versé à leurs femmes. Et nous avons obtenu de certains patrons qu'ils versent totalement ou partiellement, pendant un certain temps, des salaires aux femmes dont les maris étaient déjà dans des camps. Ce sont des côtés de la résistance dont on ne parle pas beaucoup. Évidemment, 70 ans après, les résistants sont supposés avoir tous eu un canon dans leur poche pour tuer des boches. Ça se passait pas comme ça. Ça, c'était l'aspect le plus héroïque, bien sûr, le plus courageux. Mais c'était le côté le plus minoritaire de la résistance. La résistance, c'était pas d'aider les Allemands à mourir, c'était d'aider les Français à vivre. Et ça n'était pas rien. C'est tout un contexte de vie que je m'efforce de rapporter quand on demande Palante et souvenirs. Moi, j'ai été arrêté quand j'étais dénoncé en 43. La Gestapo est venue chez moi, là où j'habitais.
À Lyon.
Et découvrant notre judéité, ils ont arrêté ma mère et ma sœur qui sont mortes de la dénonciation qui me visait moi. Ça ne se passait pas comme ça. Chez les résistants non-juifs, on montait, on arrêtait le garçon ou la fille dénoncée ou pistée ou découverte pour sa participation à des activités interdites. Mais on n'emmenait pas la famille, on n'emmenait pas les parents, on n'emmenait pas les petits frères et les petites sœurs. Chez moi, comme chez d'autres, mon arrestation a signifié l'arrêt de mort pour ma mère et pour ma sœur. D'ailleurs, quand j'ai ouvert la porte, et quand ils ont dit Gestapo, police secrète allemande, et j'ai dit à ma mère, c'est la Gestapo, son cri a été, mais c'est la fin de notre vie. C'est tellement...
Donc on savait parfaitement.
Mais bien sûr, on savait. Et quand on raflait, soi-disant, pour aller travailler, des juifs qui avaient 85 ans, hein, ou des bébés qui avaient 3 ans. C'était pas pour les emmener travailler. Et puis, j'ai moi-même distribué des tracts racontant. Des tracts dont l'initiative revenait aux résistants juifs, notamment immigrés, plus que pour les juifs de vieille souche française qui s'illusionnaient des faux raisonnements. Comment mon père a fait 14-18 ? Nous sommes français depuis la Révolution française. On n'imaginait pas.
Alors que vous étiez des juifs immigrés.
Nous étions des immigrés. C'est-à-dire des gens qui sont nés dans le combat pour protéger leur vie. Hein, la Pologne et la Russie, des pogroms. L'affaire Dreyfus, vécue en France, mais peu d'années avant. Nous sommes 70 ans.